VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Le Burkina Faso a décidé d'interdire les importations en provenance de la Corée du Nord pour se conformer aux résolutions de l'ONU qui interdisent toute activité commerciale avec ce pays sanctionné pour ses essais nucléaires. La décision fait suite à une note des États-Unis en octobre à l'État burkinabé qui continuait à avoir des relations commerciales avec Pyongyang malgré les sanctions. À la suite de cette interpellation, a expliqué le ministre burkinabé des Affaires étrangères Alpha Barry lors d'une conférence de presse ce mercredi, nous avons diligenté une enquête aussi bien au ministère du Commerce qu'au niveau du département des Finances et nous avons trouvé qu'il y avait des opérateurs économiques qui faisaient des importations en provenance de la Corée du Nord. Le chef de la diplomatie burkinabé a ajouté que des instructions ont été données à ces deux organismes de mettre fin à ces importations. L'interdiction d'importation concerne aussi bien les Burkinabés que les ressortissants des autres pays vivant au Burkina, a précisé Alpha Barry. Selon des chiffres officiels, les importations du Burkina en provenance de Corée du Nord portent essentiellement sur des produits pétroliers et ont atteint plus de 3,8 milliards de francs CFA, soit plus de 6 millions de dollars en 2016. Côte d'Ivoire, le procès de l'ancien ministre ivoirien Hubert Houlaye, accusé de complicité d'assassinat dans le cadre de la mort de 7 casques bleus et 8 civils en 2012, reprend demain à Abidjan. Les avocats à la défense ont quitté l'audience hier, Solange Nyamulisa.
Les avocats de l'ex-ministre Hubert Houlaye ont affirmé ne pas disposer de plusieurs pièces produites par le parquet devant la cour d'assises d'Abidjan. Il s'agit notamment des procès-verbaux d'audition de la direction de la surveillance du territoire qui fonde le dossier de l'accusation. Maître Toussaint Dako a dénoncé une violation manifeste des droits de la défense, critiquant l'amateurisme du parquet. À l'ouverture de l'audience, M. Houlaye a clamé son innocence. Il a expliqué qu'il n'y a rien dans ce dossier et qu'il n'est pas impliqué dans ces attaques. Il a accusé la DST d'avoir fabriqué des faux documents pour l'incriminer et qu'il est poursuivi pour des raisons politiques. Il était porte-parole du gouvernement à l'époque de Laurent Gbagbo. De son côté, le procureur général Léonard Lebri a affirmé que les pièces contestées figuraient bien au dossier. Il a réfuté toute motivation politique.
République démocratique du Congo, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, a accusé les forces de sécurité congolaises et une milice soutenue par l'armée d'avoir planifié des massacres relevant de crimes contre l'humanité contre une ethnie du Kasaï. Des violences d'une ampleur et d'une gravité sans précédent ont été perpétrées dans cette région du centre du pays entre mars et juillet, déclare un rapport de 100 pages publié aujourd'hui par la FIDH, basée à Paris, et ses organisations partenaires en RDC. Et toujours en RDC, revers pour l'opposition congolaise qui reconnaît son incapacité à mobiliser la population mardi lors des manifestations pour dénoncer le renvoi au 23 décembre de 2018 des élections censées mettre fin au pouvoir du président Joseph Kabila. L'un des ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi, l'a admis publiquement, Gaby Dorsil.
C'est en effet dans un entretien vidéo sur Facebook que Félix Tshisekedi, patron du rassemblement de l'opposition en RDC, a avoué que la marche n'a pas pu avoir lieu, ce qu'il a attribué à la pluie et à un manque de coordination. Les autorités, qui avaient interdit la manifestation, avaient pris des mesures sévères pour les réprimer. Selon un porte-parole de la police, plusieurs dizaines de personnes, dont les responsables de l'UDPS, ont été arrêtées dans le centre et le centre-est du pays. Tshisekedi lui-même a été dissuadé de sortir de chez lui pour manifester, toujours selon la police. S'il y a eu un certain ralentissement des activités à Kinshasa, la capitale, ailleurs, la situation était différente. 3 jeunes ont été appréhendés à Lubumbashi. La police a empêché la marche à Bukavu, ainsi qu'à Goma, où le président Kabila assistait à une conférence des gouverneurs provinciaux. Son deuxième et dernier mandat a pris fin il y a un an, et l'opposition rejette tout report du scrutin à décembre 2018, alors qu'un accord avait prévu des élections en décembre 2017.
Cameroun, la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, effectue depuis mardi une visite officielle dans le pays. Le président Paul Biya a reçu en audience Madame Scotland le jour même de son arrivée sur place. La haute responsable du Commonwealth a appelé à l'unité et au dialogue alors que le Cameroun connaît une grave crise sociopolitique dans ses régions de l'Ouest anglophone, rapportent les médias publics camerounais. Au cours de sa visite de 4 jours, Patricia Scotland rencontrera les principaux responsables politiques, de même que des représentants des partis, de la société civile et du monde économique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Angola, la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, a ouvert une enquête sur de possibles détournements de fonds imputables à son ex-PDG, Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Les détails avec Eddie Isango.
C'est la presse angolaise qui révèle des transferts de fonds faramineux de la compagnie angolaise du pétrole vers des comptes privés. Selon les nouveaux journaux et le journal Economico, la nouvelle direction de la Sonangol a identifié un transfert suspect de 57 millions d'euros vers un compte à Dubaï. 10 millions d'euros ont été envoyés, selon ces révélations de la presse, vers une entreprise portugaise qui a Isabel dos Santos comme actionnaire principal. La Sonangol a émis des réserves, mais son porte-parole confirme tout de même qu'une commission d'enquête interne est bien mise en place.
Actualité aux États-Unis, Gérard Boucharin a appris qu'il était américain très tard et pas rieur. Ce retraité de 68 ans vit en France, mais est né à New York. Il n'a passé que quelques semaines aux États-Unis, mais sa banque s'est chargée de lui rafraîchir la mémoire en lui demandant qu'il fournisse son numéro fiscal américain. Lorsque vous êtes américain, vous devez payer en effet des impôts sur les revenus, quel que soit votre lieu de résidence. C'est un casse-tête pour ces Américains accidentels. Idriss Falajoie à Paris, Fabien Le Hargre, président de l'Association des Américains accidentels.
En ayant le malheur de naître sur le sol américain, pour ma part, je suis né il y a maintenant 33 ans en Californie et j'ai quitté les États-Unis à l'âge de 18 mois pour la France avec mon père et je ne suis retourné aux États-Unis qu'une seule fois à l'âge de 27 ans. Retrouver ma mère. Donc je suis un Américain accidentel à cause de la pratique de la citizenship based taxation par les États-Unis où j'aurais dû déclarer mes revenus au fisc américain.
Est-ce que vous êtes nombreux dans ce cas si vous formez une association ?
Alors en France, on est plus de 270 aujourd'hui. L'association a été créée il y a un peu plus de 6 mois. Maintenant en France, il y a beaucoup plus de personnes identifiées. Il y en a un peu plus de 550, mais il y en a encore plus. Hein. Il y en a dans tous les pays du monde. Et les parents, pour différentes raisons, sont partis sur le sol américain pour faire naître leurs enfants et puis sont retournés dans leurs pays respectifs. Donc aujourd'hui, vous avez des Américains accidentels dans le monde entier.
Quels sont les inconvénients d'être Américain en vivant à l'étranger ?
En fait, les États-Unis, en 2010, ont fait voter une loi qui oblige en fait toutes les institutions financières du monde à identifier les US personnes et à transmettre les informations bancaires les concernant au fisc américain. Et le problème, c'est que donc il y a certaines banques qui, pour des raisons financières, ne veulent pas s'embêter avec des clients de nationalité américaine, refusent d'ouvrir des comptes bancaires pour ces personnes, clôturent des assurances-vie et refusent des prêts immobiliers.
Même dans votre association, vous avez le cas d'une personne qui, à 68 ans, découvre qu'il était citoyen américain.
Ben oui, tout à fait, oui. Puisque les États-Unis appliquent le droit du sol. Donc, dès lors que vous naissez sur le sol américain, vous avez de facto la nationalité américaine. Sauf que les États-Unis font reposer leur fiscalité sur la nationalité, qu'ils appellent la citizenship based taxation. Ça veut dire que toute personne, dès lors qu'elle a la nationalité américaine, est tenue de déclarer ses revenus au fisc américain, voire de payer des impôts dans certains cas.
Renoncer à la nationalité, est-ce que c'est facile d'abord ?
Ben non, pour renoncer à la nationalité américaine, ça suppose d'être en conformité avec le fisc américain. Donc en fait, on est tenu de rentrer dans le système fiscal américain, donc de demander un Social Security Number, un numéro d'identification fiscale, de déclarer donc avec l'aide d'avocats. Donc là, vous allez compter 20 000 euros à peu près, de payer éventuellement des impôts. Donc vous vous retrouvez à payer des impôts à 2 reprises. Et enfin, pour pouvoir renoncer, il faut être en conformité pendant 5 ans et il faut encore payer à l'ambassade américaine $2,350. Enfin, être débarrassé de cette nationalité américaine.
Vous êtes engagé dans un casse-tête chinois, j'imagine.
En France, à travers l'Association des Américains accidentels, nous avons déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État au motif que l'accord FATCA qui oblige les banques à nous identifier n'est pas appliqué de manière réciproque par les États-Unis. Et le deuxième argument qu'on met en avant, c'est que le transfert de nos informations ne respecte pas le droit européen concernant la protection des données.
Est-ce que vous pensez que le Conseil d'État français peut avoir le pouvoir de faire annuler une décision américaine votée par le Congrès des États-Unis ?
Ça, non, elle n'aura pas la possibilité. En revanche, qu'elle a la possibilité, c'est de rendre illégal le transfert d'informations. Donc FATCA continuerait à s'appliquer, mais par contre, donc les banques devraient normalement envoyer des informations, sauf qu'elles n'auraient plus la base juridique en France pour pouvoir respecter cette loi américaine.
Fabien Le Hargre, président de l'Association des Américains accidentels, joint à Paris par Idriss Fall. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.